Radio Okapi.
À la grande édition de nos informations dominicales vespérales avec Pascal Massilika.
À la une de l'actualité, vive tension au Tanganyika entre les partisans de l'Union sacrée pour la nation et ceux du gouverneur de province. Les premiers cités accusent Zoé Kabila Mwanzambala de ne pas adhérer à la vision du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Audience publique samedi à Kindu en procédure de flagrance contre le chef intérimaire de la police ville. La cour militaire poursuit le major parfait Massabuka de n'avoir pas protégé la présidente de l'Assemblée provinciale Gertrude Kitembo qui avait été attaquée mercredi après-midi par des jeunes en colère après une plénière. Notre invité, c'est Jean-Baptiste Kasekwa, ce député national élu de Goma au Nord Kivu, parle de l'insécurité qui prévaut à l'est du pays et de la responsabilité du gouvernement en vue du rétablissement de la paix. Madame, Messieurs, bonsoir. Dans la province du Tanganyika, la tension est montée d'un cran entre les partisans de l'Union sacrée pour la nation et ceux du gouverneur de province. Le premier cité accuse Zoé Kabila Mwanzambala de ne pas vouloir adhérer à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, et de n'avoir pas accepté de recevoir les députés nationaux venus implanter l'Union sacrée dans cette province. Pour en parler, retrouvons Akalemi Expedimo Mamobi.
D'un côté, les pro-Union sacrée qui se sont réunis dans un restaurant-bar pour clamer haut et fort leur adhésion à l'Union sacrée. Et de l'autre, un groupe de motards qui a fait des allées et venues dans la ville pour manifester leur soutien au gouverneur Zoé Kabila. Cela fait une semaine qu'un groupe de députés nationaux originaires du Tanganyika explique être venu à Kalemie avec la mission officielle d'implanter l'Union sacrée. Les députés Jean Manda Kansabala, Swedi Kanyanduru et John Banzalunda affirment avoir convaincu 18 à 20 députés provinciaux sur les 25 d'adhérer à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ils expriment par ailleurs leur colère à cause, disent-ils, du refus du gouverneur Zoé Kabila de les recevoir. Ce que dément la cellule de communication du gouverneur. Le responsable de la cellule affirme que le gouverneur n'a jamais déclaré qu'il n'est pas dans la vision du chef de l'État. Enfin, sur la RTNC locale, un groupe de jeunes leaders du Tanganyika vient à son tour d'inviter les députés à apporter en retour à la population du miel et de l'argent dont celle-ci a besoin. Kalemi, Expedi Mwababoubi, Radio Okapi.
Au sud Kivu, pendant ces temps, les jeunes acquis au changement réclament la démission du gouverneur de province. En séjour ici à Kinshasa, ils ont déposé vendredi une plainte au cabinet du procureur général près la Cour des cassations. Ils reprochent à Théo Ngouabi Djekassi la gestion calamiteuse des finances publiques et de ne rien faire pour mettre un terme à l'insécurité. Des précisions avec un des leaders de cette dynamique, Shankar Sauti Yawengi, s'est confié à Jean-Désiré Kanyama.
En fait, notre démarche, c'est condamner et dénoncer la malgestion qui accompagnait des détournements des fonds publics alloués aux sinistrés et l'insécurité grandissante dans la province du Sud Kivu. Il y a le détournement de plus de 2 millions de dollars, l'argent qui a été alloué aux sinistrés de Kamituga et de Mwenga. Il y a le détournement des fonds de plus de 1 800 000 dollars qui a été alloué à la réhabilitation de la route de Place Moulamba, Ruzizi Premier. Il y a aussi le détournement sur la surfacturation des contrats et de passation des marchés dans la province du Sud Kivu.
Qu'est-ce que vous, en tant que mouvement citoyen, vous proposez pour que cette province soit bien gérée?
En fait, à ce stade, nous sommes en train de chercher à trouver d'abord une solution aux problèmes qui se passent dans notre province. Mais nous devons chasser avec les pratiques antérieures qui ont caractérisé la gestion de notre province. Nous embrassons d'abord le combat de la mégestion, viendra après le combat du candidat qui va succéder, M. Théo Ngouabi Djekassi. Notre combat n'est pas personnel, mais nous attaquons à la gestion de M. Théo Ngouabi Djekassi. Ce qu'il a prôné comme gouverneur, autrement, nous ne sommes pas de nous retrouver dans cette philosophie qu'il a eu à donner à la population du Sud Kivu.
Joint par nos soins, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngouabi Djekassi, a promis de réagir plus tard. justice à présent. Au Maniema, la cour militaire a ouvert hier samedi l'audience en procédure de flagrance contre le major Parfait Massabouka, commandant intérimaire de la police ville de Kindu, suite à la plainte de la présidente de l'assemblée provinciale. Gertrude Kitembo avait été attaquée mercredi dernier par de jeunes en colère après la séance plénière de l'organe délibérant. À Kindu, le compte-rendu de Florence Kizalunga.
La première audience de ce samedi a consisté à la présentation du prévenu, sa comparution et l'audition de renseignants. Cette audience a été présidée par le premier président de la cour militaire, le lieutenant-colonel magistrat Kelly Dienga Akelele. Le ministère public reproche au commissaire supérieur adjoint de la PNC qui assume la fonction du commandant commissariat urbain de Kindu d'avoir failli à ses missions de sécuriser les députés provinciaux et l'hémicycle avant, pendant et après la plénière du mercredi 10 mars. Pour rappel, les députés provinciaux ont siégé le 10 mars dernier pour examiner la requête introduite par le gouverneur de province sollicitant un report de 30 jours pour lui permettre de bien se préparer à répondre aux préoccupations des députés qui lui ont adressé une deuxième motion de défiance. C'est au retour de l'Assemblée que le cortège de la présidente de cette première institution en province a été attaqué par les jeunes. En attendant, l'audience a été renvoyée pour ce lundi 15 mars prochain. Kindu. Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Dans cette affaire, notez que Mme Viviane Bendera, femme leader du Maniema, plaide pour une enquête sérieuse afin de dénicher ceux qui en veulent à Mme Gertrude Kitembo, présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema. Elle est au micro de Florence Kizalunga.
Ce sont des actes ignobles. Nous n'avons pas besoin de ces actes ici au Maniema. Et surtout qu'il s'agit de la présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema. Moi, je me dis, même si on ne partage pas une position, on n'a pas le même penchant, je crois qu'on ne peut pas aller jusqu'à ce niveau-là. Et ça coïncide avec le mois de la femme, où nous voulons une égalité numérique, où nous voulons valoriser la femme, nous voulons le responsabiliser. On ne peut pas vouloir une chose avec son contraire. Personnellement, je suis choquée et je me dis, si aujourd'hui c'est madame, demain ça va être madame Bendera. Et après demain ça va être madame Kapunga. Alors si les mesures qui doivent vraiment être appliquées pour que justice soit faite ne se font pas, là, nous allons le prendre en charge pour que nous puissions nous-mêmes nous faire justice. Parce que c'est intolérable. On s'est toujours dit, il n'y a rien pour rien. Hein. Alors, les commanditaires, de près ou de loin, qui retroussent les manches, parce que c'est un sale jeu qui peuvent les retourner. Nous avons besoin de la paix. Aussi, les autorités qui prennent ce qui s'est passé au sérieux pour que justice soit faite. Il faut qu'on sente que la femme, quand même, elle est protégée et que ce sont des actes ignobles que nous autres, nous n'allons pas accepter.
Autre nouvelle sur Radio Okapi ce soir. Au Nord Kivu, le syndicat des enseignants de Butembo appelle les parents d'élèves du primaire à assurer la prise en charge des enseignants NU, nouvelles unités donc. Appel lancé ce dimanche dans un communiqué en réaction à l'arrêté du gouverneur fixant les frais scolaires. Des précisions avec le secrétaire permanent du CIECO Butembo, le syndicat des enseignants du Congo, Irène Mutumwa, est au micro d'Alicia Kapisa.
Par rapport à l'arrêté du gouverneur qui fixe les frais scolaires payés dans les écoles secondaires, il était question que un pourcentage soit centralisé dans la caisse qu'on appelle caisse de solidarité, et ce pourcentage serait remis aux enseignants de l'école primaire. On prendrait, je crois, 25% des frais payés par les parents au secondaire, et ces 25% seraient centralisés dans une caisse qu'on appelle caisse de solidarité à vue de prendre en charge les nouvelles unités à l'école primaire. Les enseignants disent non à ce point de vue, et ce n'est pas concevable que le traitement de ces enseignants qui ne sont pas encore pris en charge par l'État viennent des élèves à l'école secondaire. C'est que les enseignants refusent. Donc, le parent étant le même, les parents doivent le payer à l'école primaire même, en attendant que le gouvernement puisse réaliser ses promesses.
J'ajoute que tous nos efforts pour avoir la réaction de la division de l'enseignement primaire, secondaire et technique Nord Kivu 2 n'ont pas abouti. Pour mémoire, l'arrêté du gouverneur du Nord Kivu fixant les frais scolaires au secondaire a été publié à la fin du premier trimestre. Dans la Tchopo, l'église dénommée Cité de Refuge, installée à côté du site B de l'ISP et de la Faculté des Sciences,
sciences de l'université de Kisangani doit désormais se conformer aux horaires des cours de ces établissements durant 3 mois du moratoire lui accordé en vue de sa délocalisation. Ce compromis a été trouvé hier samedi après-midi entre les responsables de cette église et le directeur général de l'ISP Kisangani sous la médiation du maire de la ville, Jean-Louis Alasso. Reportage à Kisangani de Jacques Mokonkole.
L'ambiance des cultes et autres cérémonies religieuses dans cette maison de prière ne permet pas le bon déroulement des activités académiques, notamment au site B de l'ISP Kisangani, voisin immédiat de l'église cité de refuge. L'ambiance électrique générée par les chants, les prières, les cris des jours et ceux des conjurations des mauvais esprits ne rimait pas avec celle des milieux étudiantins. Ceci requiert un calme absolu, nécessaire pour la concentration aussi bien des étudiants que des enseignants. Face à ce climat trouble au quotidien, les étudiants voulaient à tout prix de guérir leurs voisins indésirables de ces lieux. Pour parer au plus pressé, le DG de l'USP Kisangani a sollicité l'arbitrage du maire de la ville. Autour de la table, après analyse de la situation, un compromis s'est dégagé. L'église se conformera aux horaires des cours de l'ISP en attendant sa délocalisation dans les 3 mois qui suivent. Ce qui veut dire que les cultes dans cette église n'auront plus lieu que de 6h à 7h30 du matin tous les jours pairs et de 18h à 19h30 tous les jours impairs. Et le DG de l'ISP Kisangani, le professeur Paul Vitamara Massimango, d'appeler les étudiants au calme.
Je demande aux étudiants de ne plus s'agiter. Et je profite même pour demander aux étudiants de la faculté des sciences de se comporter de la même manière parce que nous venons de trouver une solution avec le maire de la ville. Pendant les 3 mois, ils vont respecter les horaires de cours.
Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Revenons un instant au Tanganyika où le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR a entamé vendredi dernier la distribution de l'assistance aux déplacés dans les sites de retour situés en Pungwe, une localité située à une quinzaine de kilomètres sud-ouest de la ville de Kalemi. Cette opération est menée en partenariat avec l'ONG Action et Intervention pour le Développement et l'Encadrement Social à Kalemi, Expedi Mwambamubi.
Depuis que sa fille est décédée il y a une année et demie, Tina Mbuyu, une grand-mère qui habite dans la localité Mpungwe, prend en charge ses 5 petits-enfants. Tina Mbuyu vient de recevoir de l'assistance de la part du HCR. C'est au total 300 personnes qui sont concernées par l'assistance du HCR. Le kit est composé de pagnes, seaux, couvertures, savons et nattes. Ce responsable du HCR explique.
Nous avons identifié 300 personnes à besoins spécifiques et celles vulnérables dans 4 sites de retour. Ce kit vient justement pour renforcer la dignité de personnes à besoins spécifiques, notamment les femmes, mais également à améliorer les conditions de vie, parce que parmi ces 300 personnes, nous avons également des hommes.
Pour ce délégué de l'ONG AIDES, partenaire du HCR, l'assistance poursuit également d'autres objectifs.
Ce kit-là va promouvoir la coexistence pacifique dans la zone, surtout au courant de cette période que nous prenons les droits de la femme dans toute la communauté.
La distribution de l'assistance du HCR va se poursuivre le mardi 16 mars prochain. Kalemi, Expedi Mwambamubi, Radio Okapi.
Et puis, réussir ensemble, c'est le titre d'un projet qui a été lancé par des associations féminines de la ville et territoire de Beni au Nord Kivu en collaboration avec l'ONG Rien sans la femme. Ce projet a fait l'objet d'un atelier de 3 jours qui s'est achevé vendredi après-midi avec la participation des associations féminines et des représentants des partis politiques. Objectif affiché, motiver les femmes de la région à leur participation dans tous les projets d'autonomisation. Des précisions avec le porte-parole de l'UDPS Beni, Bernard Kambalé, s'est confié à Marc Marofimbo.
Cette activité est vraiment une activité dans le cadre de promouvoir ce qu'on dit les genres, comme sur le mois de la femme. C'est vraiment une promotion de cette activité des genders dans le sens de faire collaborer tout le monde pour que tous nous puissions réussir. Et quand vous entrez dans le fond du projet, vous voyez qu'il y a vraiment plusieurs aspects qui ont été pris en compte pour que cette promotion arrive à tous les niveaux. Nous sommes convaincus que avec l'organisation qui a été faite, si on arrivait à atteindre toutes les activités qui ont été organisées dans ce projet, on arrivera à atteindre les objectifs. Et aussi, j'ai dit que la façon dont ils ont fait de faire participer tout le monde, nous, nous l'encourageons et nous demandons à ce que cette activité continue vraiment, que ça ne soit pas la première ou la dernière activité, mais qu'on continue et qu'on atteigne aussi les groupes cibles tels que ça a été ciblé dans les projets.
Actualité internationale.
Devant l'urgence de la situation sanitaire, le gouvernement français prévoit de procéder à une centaine d'évacuations des patients malades de coronavirus depuis l'Île-de-France la semaine prochaine. Annonce faite ce dimanche par le porte-parole du gouvernement. Interrogé sur un possible reconfinement comme demandé par le corps médical, Gabriel Attal a indiqué que l'exécutif national fait tout pour éviter des mesures plus difficiles et plus contraignantes pour tous les Français. En République centrafricaine, une fraction des électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour des élections législatives. On vote aussi dans les circonscriptions où le premier tour qui avait été organisé le 27 décembre dernier avait été annulé ou empêché pour des raisons de sécurité. Ce dimanche, aucun incident majeur n'a été signalé, même si la MINUSCA confirme que le vote a été empêché dans certaines zones du pays.
L'invité.
Notre invité, c'est Jean-Baptiste Kasekwa, ce député national élu de la ville de Goma au Nord Kivu, parle de l'insécurité qui prévaut à l'est de la RDC et de la responsabilité du gouvernement central en vue du rétablissement de la paix. Il s'entretient avec Marc Marofimbo.
Monsieur Jean-Baptiste Kasekwa, bonjour.
Bonjour, merci.
Vous êtes membre de la Commission nationale de défense et sécurité et vous vous retrouvez dans la région de Beni. On peut du moins avoir une idée sur l'objectif de votre mission.
Je suis membre de la Commission défense et sécurité. La sécurité se détériore davantage. Il y a un nouveau programme de gouvernement qui sera examiné d'ici le 15 mars à la session parlementaire de mars. J'ai estimé qu'il était de mon devoir de fouler mes pieds à Beni pour écouter la population, écouter les autorités locales, écouter les autorités de l'armée pour savoir sous quel regard nous devons examiner ce budget-là afin de nous rassurer que les préoccupations sécuritaires de Beni sont effectivement prises en compte. C'est la principale raison de ma présence ici après que j'ai été à territoire de Rutshuru, déclaré aussi zone rouge. J'ai estimé donc qu'il fallait que je vienne à Beni, principalement pour écouter, afin de pouvoir apporter ma modeste contribution lors de l'examen du programme de gouvernement qui est attendu.
Monsieur Jean-Baptiste Kasekwa, les atrocités de groupes armés s'étendent et s'intensifient dans la région de l'Est, à Beni et même en Ituri. Que pensent les élus et que pense le gouvernement?
C'est l'une des préoccupations que nous devrions poser au Premier ministre qui est entré en fonction. Quelle est sa politique de partenariat militaire? Doit-on continuer sous la même logique, sous le même format avec la MONUSCO? Faut-il que d'autres partenaires, et sous quelle modalité d'autres partenaires bilatéraux devraient-ils intervenir? Mais prioritairement, quel est le niveau de contribution budgétaire à vue de la mise en œuvre de la réforme de l'armée? Parce que le socle de notre défense, c'est d'abord les FARDC et nos services de renseignement. Mais il se fait que la part allouée à notre sécurité dans le budget est souvent négligeable. C'est le regard que nous devons apporter pour savoir si le nouveau Premier ministre avec son gouvernement veut réellement répondre aux attentes. Nous devons nous rassurer, au-delà de la part réservée dans ce budget de 4 milliards 300, il est maigre. Est-ce qu'il est possible maintenant d'accorder une priorité de sorte qu'il y ait des moyens financiers extra-budgétaires, parce que les FARDC n'ont jamais refusé de disposer d'un drone? Pourquoi devons-nous dépendre des drones, des hélicoptères de la MONUSCO? Pourquoi les FARDC peuvent être incapables d'être dotés de jeeps à nombre imposant? Et au contraire, vous allez retrouver que c'est dans les parcs automobiles des ministres où vous retrouvez 20-30 jeeps d'un prix très élevé. Donc,
nous devons examiner le programme du gouvernement sans complaisance, et c'est à cela que nous sommes en train de travailler, à une mobilisation de tous les élus de l'est de la RDC, Ituri, Sud Kivu, Tanganyika, pour qu'effectivement les combats nous puissions le mener au niveau institutionnel. Et si nous adoptons, nous parvenons à obtenir ces réformes au niveau institutionnel, je pense que même au niveau de nos entités, de nos villes, la tension, les manifestations peuvent baisser si effectivement au niveau du Parlement nous aurons obtenu des résultats à partir du gouvernement.
Tantôt, vous venez de dire que le budget peu considérable que le gouvernement a doté à l'armée. Pensez-vous que ce budget impacte négativement les efforts de l'armée sur terrain?
Absolument. Comptez le nombre de jeeps dont disposent les commandants des opérations dans différents secteurs. Quelle est la part allouée à la ration militaire? Et donc, bien que ce budget soit maigre, nous devons lutter pour qu'une part importante soit affectée à la sécurité. Donc, notre lutte doit consister aujourd'hui à ce que la réorientation des affectations de ce budget soit faite au profit de l'intérêt du peuple. Il y a un slogan, le peuple d'abord. Cela ne doit pas rester un slogan, ça doit se traduire par des affectations budgétaires au profit de la sécurité, au profit de la réhabilitation des routes, et c'est les combats que nous devons mener tous ensemble au cours de ce mois de mars.
Monsieur Jean-Baptiste Kasekwa, je rappelle que vous êtes aussi membre de la commission de défense et sécurité. Nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi ce soir, Jean-Baptiste Kasekwa, député national élu de Goma au Nord Kivu. Il était interviewé par Marc Marofimbo. Il est 18h20 à Kinshasa. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éclairée de Julien Nyamoyi.